neutralisation des réseaux qui nous intéressent.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
That boy you call is a diamond fella. All you little boys ever come in your parish. You fellow, but you fellows get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. And you, what are you gonna do? Little boys get tame like the shoe. You mid summer dreaming, the tunes ain't appealing. I'm capulet, you're monarch, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, getting to your CV. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not king here. I don't know about tomorrow, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. What you do about nothing, what you do is buy it. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth. I'm fire, things look dire. Better run like Pericles,
Prince of Fire.
Bonsoir.
Nous sommes le mercredi 6 juin 2018. Il est 19h passé de 4 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Et ce soir, après quelques brèves, nous parlerons convergence des luttes. Grève de la faim à l'hôpital psy du Rouvray, c'est cet endroit où les gens ont trouvé que la grève classique, finalement, ça n'avait pas l'air de marcher tant que ça, alors ils essayent d'autres tactiques.
On va revenir sur le fait que Netanyahou était reçu hier par Emmanuel Macron.
Et puis du greenwashing en direct.
Flamanville, Fessenheim et compagnie, foirage présent, passé et futur, ça c'est un énorme dossier.
Une campagne d'immobilisation mortelle, une campagne contre les trucs d'immobilisation mortelle utilisés par la police.
Lycéen anti-NRA, sa maison prise d'assaut par le SWAT.
Une petite rubrique à lire sur le net.
Les Antilles empoisonnées.
Et la prochaine Pride de nuit à Lyon, ça sera l'agenda dans lequel on parlera aussi d'un rassemblement demain contre la nouvelle loi sur l'immigration, la loi Colomb.
Et bien pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, la société chimique et pharmaceutique allemande Bayer a décidé de supprimer la marque Monsanto, bien évidemment trop connotée, pour la remplacer par Rassemblement National.
Tout aussi nocif. Ouais, y a même le journal Süddeutsche Zeitung qui a un peu cherché et apparemment tout ce que faisait mon Satan autour des OGM, Bayer va quand même bien continuer. Hein. Pagaille du rail, ça suffit, clame en cœur 25 journaux. Voilà. Bon, mais ça se passe en Angleterre, pas du tout en France. C'est juste pour vous donner cette petite brève. Il y a 25 journaux dans le nord de l'Angleterre qui visiblement sont des journaux qui ne peuvent pas trop s'entendre habituellement et là qui ont décidé de faire une commune parce que c'est un bazar monstre. Il y a plus de 2000 trains qui ont déjà été annulés et frappés de longs retards. Alors pourquoi tout ça? C'est qu'en fait, il y a 15 jours, ils ont changé les horaires au niveau du train en Angleterre. Et en fait, non seulement l'équivalent un petit peu de la SNCF s'est un petit peu mangé en préparant tout ça, mais surtout, vous le savez très bien, et c'est pour ça que j'en parle, le rail en Angleterre s'est excessivement privatisé, et c'est bien entendu les franchises privées qui, en fait, n'ont pas du tout préparé ces changements d'horaire, et c'est elles qu'il faut stigmatiser, car le rail, quand c'est privatisé, ça va dans le mur.
Et au Chili, un mouvement des étudiantes contre le harcèlement et les agressions sexuelles a pris une énorme ampleur ce mois d'avril à l'université notamment de Valdivia, au sud du pays, dans un pays, rappelons-le, le Chili, très catholique. Et c'est une vingtaine d'établissements qui sont aujourd'hui bloqués, des universités. Une nouvelle manifestation qui était prévue ce mercredi et le 16 mai, la manifestation à l'appel de la Confédération étudiante chilienne CONFECH a réuni 25 000 personnes à Santiago selon la police, 150 000 selon les organisatrices. Donc une mobilisation pour les droits des femmes d'une ampleur inédite depuis la dictature de Pinochet. Même la très conservatrice Université catholique de Santiago a été occupée plusieurs jours. Et ça, ça ne s'était pas vu depuis 30 ans.
L'université privée, comme beaucoup d'universités, comme la majorité du système universitaire et scolaire au Chili. Voilà, on aurait pu citer également la préparation d'une grosse manif pour le droit à l'avortement de l'autre côté de la cordillère des Andes. Ça, c'est en Argentine et c'est dans quelques jours. On peut parler aussi, dans les brèves, de la superbe avancée des macronistes qui s'appelle donc la loi Elan, qui est donc c'est Le Monde qui est quand même pas ce qu'on fait de plus anti-libéral comme journal qui dit
oui, anti-Macron
voilà ça vient de sortir, le papier s'appelle loi Elan, la grande dérégulation. Il s'agit de déréguler en fait tout ce qui concerne un petit peu le logement, l'aménagement du territoire. Donc ils ont tenté de déréguler la loi littorale qui fait que nos littoraux sont pas trop encombrés de béton, mais ça, ils ont légèrement reculé. Ils ont fait un truc incroyable. Ils vont réduire de 100 à 10% le nombre de logements neufs obligatoirement accessibles aux personnes handicapées. Voilà. Donc ça, vous doutez bien que on se demande, enfin tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Autre chose, il y a des attaques assez ciblées sur les HLM, au sens que les organismes HLM doivent être regroupés en des hyper gros centres en petit nombre de gestion des HLM qui pourraient avoir des fonctionnements très articulés autour de faire des bénéfices, mais en tout cas très orientés comme un groupe capitaliste usuel, quoi. Et puis l'autre truc qui est vraiment sympa, et vous sentirez l'ironie bien entendu, c'est l'objectif de vente de logements HLM à leurs locataires, et puis éventuellement quand ils font de la vente en bloc, éventuellement en vendant à les HLM à des acteurs privés. Donc imaginez quand vous vendez des HLM pour pas bien cher à Neuilly, sachant qu'il y en a très très peu, évidemment c'est les acteurs privés qui s'en mettent plein les fouilles. Aussi un truc pas mal, c'est que même si les logements sont vendus, ils resteront comptabilisés pendant 10 ans dans les quotas de logements sociaux imposés par la loi SRU. Donc en gros, si vous vendez les logements HLM, pendant 10 ans, vous pourrez quand même dire que vous en avez. Donc c'est vraiment n'importe quoi.
Et à se demander quand même si cette partie de loi là, sur les logements, sur les handicapés, ne va pas servir comme un peu ils le font à chaque réforme, là, un peu de carotte à mobilisation. C'est-à-dire que genre ils se sont dit, ah, on va mettre ça comme ça, là ça va concentrer un peu toutes les protestations. Au dernier moment, on va dire, ah, c'est bon, on lâche là-dessus, et puis comme ça, tout le reste passe tranquillou. Et on va parler convergence des luttes.
Alors plus exactement, je vous propose la lecture d'un sous-ensemble d'un texte publié sur Rébellion par quelqu'un d'anonyme. C'est publié il y a 2 jours et ça parle justement de convergence des luttes. Moi, je trouve ça assez juste. On pourra ouvrir le débat, vous pouvez éventuellement nous appeler. Donc le texte commence ainsi. Aujourd'hui, tout le monde ressent la nécessité d'une véritable convergence des luttes en réponse à une segmentation et à une parcellisation des fronts, mais aussi par rapport à l'usure des modes d'action ritualisés. La recherche d'unité dans le respect de la diversité n'est-elle qu'une vision de l'esprit ou peut-elle se traduire en acte ? Dans le contexte des luttes lyonnaises contre les réformes Macron, on insiste depuis quelques temps à une volonté manifeste de sortir de son cercle. Mais la question de la convergence ne se limite pas à des échanges de moyens et de questions de placement dans les manifs, mais plutôt à la question du sens de nos luttes et à la question du pourquoi nous nous battons. Voilà, j'ai baissé un peu le tempo. Si la convergence n'est pas une simple juxtaposition des discours des luttes entre elles, c'est plutôt dans ce qui les relie et fait résonance qu'elles peuvent trouver un langage commun contre la marchandisation des secteurs de la vie sociale ou encore contre les rapports de domination sous toutes leurs formes. Dépasser les particularismes de chaque lutte, ce n'est pas nier la légitimité et la diversité de leurs revendications, mais c'est trouver ce langage commun sans uniformisation du discours. Peut-être faut-il s'arrêter de penser la convergence dans un schéma de permanence ou de vouloir l'institutionnaliser. L'impasse et l'opportunité des luttes actuelles, c'est que le gouvernement en fait un enjeu de pouvoir sans réelle volonté de négociation sur ces réformes. Ce qui ne laisse pas d'autres alternatives que de radicaliser le conflit en trouvant son expression politique à travers un grand élan de dégagisme. Les stratégies syndicales de recherche de compromis ne fonctionnent plus ou pas, alors il y a écrit plus mais je pense que c'est pas, face à un pouvoir qui veut nous contraindre à un virage de société dont nous ne voulons pas. S'enfermer dans une lutte défensive des acquis de manière sectorielle n'a plus de sens dès lors qu'elle ne serait que conservatrice de l'existant et non pas émancipatrice d'un monde dont nous ne voulons plus. Défendre le service public dans sa forme actuelle sans remettre en cause les pratiques mercantiles et les logiques gestionnaires de l'État patron, largement compromis dans l'économie de marché, ce serait se contenter de peu au lieu de vouloir le plus. Le paradoxe des luttes défensives, c'est de lutter pour confirmer le modèle existant et non pour le remettre en cause. Ainsi, tant qu'on tiendra un discours sur la croissance économique et sur l'augmentation du point d'indice, on restera dans la même logique, celle de l'illusion d'un bonheur consumériste au prix de la soumission à la routine du quotidien, à la hiérarchie du travail, au diktat de l'économie marchande. La question aujourd'hui est de savoir pourquoi nous nous battons, la motivation de nos engagements, pourquoi nous sommes prêts à prendre des risques. Cherchons-nous une cause à défendre dans le grand catalogue des luttes, dans un rapport d'extériorité aliénant ? Ou sommes-nous au centre de nos luttes ? Toutes les revendications qui nous enferment dans une identité de travailleurs, producteurs de valeur, citoyens, chômeurs, immigrés, seront forcément parcellaires et limitées par rapport au désir d'émancipation des individus. Logique d'intérêt et logique des valeurs. C'est aussi une lutte contre nous-mêmes que nous menons, car la part des normes et des limites que nous avons intégrées et reconnaître un tant soit peu de légitimité à ceux qui nous oppriment, c'est déjà accepter de subir. Ceux qui attendraient d'être autorisés à changer le monde devraient reprendre leur livre d'histoire. Toujours ce texte qui est écrit de façon anonyme, qui se termine bientôt. Nous ne voulons plus un monde où tout est permis mais rien n'est possible. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes est exemplaire à ce titre, car au-delà de l'objectif défensif d'empêcher la construction de l'aéroport, elle a occupé un territoire pour vivre autre chose, générer des rapports sociaux différents à travers une relation au travail et à la production qui ne relève pas du système actuel. Et c'est contre ce projet-là que l'armée est intervenue avec une telle violence, parce que cette lutte renvoie à tous les messages qu'on peut fonctionner autrement. Si la répression est si violente, c'est parce que les zadistes transgressent les piliers du capitalisme, la propriété privée, l'argent et le salariat. Voilà, c'était un texte qui parlait de la convergence des luttes, que vous pouvez retrouver en intégralité sur Rébellion, et je ne sais pas qui l'a écrit.
Et on va continuer sur les luttes et sur les convergences. Vous le verrez plus tard dans cette info. Et c'est les soignants et soignantes en psychiatrie qui se sont mis en grève de la faim depuis 15 jours pour réclamer la mise en place d'une unité spécifique pour adolescents et la création de 52 postes d'infirmiers, et tout ça à l'hôpital psychiatrique du Rouvray près de Rouen. Alors sur le bâtiment, les soignants et soignantes ont déployé une banderole avec un énorme doigt d'honneur destiné principalement à l'ARS. L'ARS, c'est l'Agence Régionale de Santé, c'est un peu l'antenne du ministère de la Santé dans chaque région, comme son nom l'indique. Et donc pourquoi ils lui ont destiné un doigt d'honneur ? C'est pour son absence totale de dialogue depuis le début du conflit. Alors au total, ils sont 7 à s'être lancés dans cette grève de la faim. Après 15 jours, 3 ont dû être hospitalisés. Alors si on parle de ces 7 qui sont en grève de la faim, ils sont soutenus par bon nombre de leurs collègues. Parce qu'on on le rappelle quand même, tout le personnel soignant est soumis à une obligation de service, ce qui rend les grèves très difficiles pour les infirmiers, infirmières et tout le personnel hospitalier, qui est qu'en fait, en général, quand le personnel soignant se met en grève, il est réquisitionné par le préfet pour que chaque personne puisse continuer d'être accueillie dans les urgences, que ce soit les urgences psy, etc. Donc voilà, donc c'est des grèves qui sont très dures à tenir parce qu'elles ont très peu d'impact pour le public, à part un impact symbolique. Et voilà, donc elles ont trouvé ce moyen pour se mettre en grève. Donc hier après-midi, Agnès Buzyn, qui n'est d'autre que la ministère de la Santé, alors qu'elle était interpellée sur le sujet à l'Assemblée nationale, a annoncé l'envoi de 3 émissaires pour, je cite, « mener une enquête flash, un audit et voir quels moyens sont nécessaires pour accompagner cet établissement ». Alors c'est à se demander ce qu'il se serait passé si personne ne l'avait interpellé. On imagine assez bien les ministres avoir, avant chaque séance, tout un tas de petites réponses dans leur petit calepin qui donnent l'illusion de s'inquiéter d'un sujet ou d'un cas ou un autre. Si un député les interpelle sur telle ou telle situation, et donc ils auront tout un tas de mots-clés qui font bonne impression. Ici, par exemple, enquête flash, audit et moyen. Hein, ça en jette. Hier soir, comme par miracle, une intersyndicale a été reçue à l'ARS, donc cette agence régionale de la santé, une première depuis le début de la grève de la faim. Une infirmière et représentante de la CGT, représentante du personnel, se marre à chaque audit, chaque mission. La conclusion est la même, il faut embaucher, sauf que derrière, rien ne se passe. Et on pourrait gagner du temps et embaucher direct. La capacité d'accueil est actuellement de 115% dans l'unité. Les patients sont placés n'importe où, parfois dans des bureaux qui sont vidés pour l'occasion. Pour faire plus de place, on renvoie chez eux les patients et patientes les moins pires, triés par la direction. La représentante syndicale parle de nombreux soignants et soignantes sous antidépresseurs, du travail bâclé que leur cadence leur impose. Les adolescents sont vulnérables, leur pathologie est balbutiante, mais on ne les soigne pas, on se contente de les prendre en charge. On parlait convergence des luttes, les dockers du port de Rouen ont annoncé pour demain un jeudi noir pour les soutenir.
Donc Netanyahou était reçu hier par Emmanuel Macron. Il y avait à Lyon 400 personnes à peu près qui ont répondu à l'appel à protester contre la venue de ce criminel de guerre. Et il y a une immense banderole qui est représentant des mains ensanglantées qui symbolisait les récentes victimes de l'armée israélienne qui a été mise en place hier. Et une autre qui était déployée depuis le pont de la Guillotière jusqu'au quai avec les mots « Macron invite Netanyahou, criminel de guerre ». Voilà, ça c'est pour situer le rassemblement. Sinon, il y a eu trois syndicats français de journalistes qui ont, eux, protesté lundi, jugeant, je cite, « insupportable à plus d'un titre qu'il soit reçu par Macron ». Et donc pour ces trois syndicats qui sont le SNJ, le Syndicat National des Journalistes, le SNJ-CGT et la CFDT, lors de ces manifestations, les tireurs d'élite de l'armée israélienne visent délibérément les journalistes palestiniens pourtant reconnaissablement, le gilet presse qui est très reconnaissable. Et du coup, ces syndicats sont fondus d'un communiqué commun et ont essayé de faire un peu de bruit là-dessus. Pourquoi Netanyahou y venait, notamment pour inaugurer la saison croisée France-Israël. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une campagne qui va regrouper de juin à novembre des dizaines d'événements en Israël et en France. Pour Israël, il s'agit de construire une image positive, de tenter à travers la science, l'art et la culture de blanchir ses crimes. Hein. C'est la logique du pinkwashing et compagnie. Bref, en quelques semaines, du coup, pour resituer quand même, les tirs de l'armée israélienne contre les manifestantes de Gaza non armées qui protestent contre un blocus inhumain qui dure depuis 11 ans ont fait donc 120 morts et plus de 13 000 blessés, dont 3 500 par balle, conçus pour infliger des mutilations et des handicaps à vie. Et pour rappel aussi, ces derniers temps, en toute impunité, Israël et les États-Unis fêtaient le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem en contradiction totale avec le droit international et les résolutions de l'ONU. Bref, je reprécise ça parce que c'est les actualités de ces dernières
semaines. Avec notamment, tu as bien précisé, mais cette histoire de balles qui sont conçues pour faire des dégâts. Mmh.
Et là-dedans, les deux trucs que je viens de dire, la France a condamné l'un et l'autre, là, que ce soit le déplacement de l'ambassade ou ses tirs. Pour autant, ça ne change rien, puisque Netanyahou, il est là et il blanchit l'image de son pays. Et donc, moi, je trouve que face à l'inaction complice de notre gouvernement, c'est toujours important de rappeler qu'il y a la campagne BDS, boycott, sanction des investissements. Vous pouvez retrouver leur site internet bdsfrance.org. Et une autre petite info, tant qu'on est en train de parler d'Israël et qu'on est au mois de juin, et pour celles et ceux qui ne le savent pas, le mois de juin, c'est le mois des fiertés homosexuelles. Je relais à l'initiative du collectif qui s'appelle Pink Watching, qui est un collectif de queer palestiniens et de leurs alliés dans la mouvance BDS palestinienne pour la liberté, la justice et l'égalité. Et en fait, ils ont lancé une campagne d'action de boycott du Festival international du film LGBT de Tel Aviv. Et du coup, en juin, dans tout le monde entier, il y a plein d'événements LGBT et à Lyon aussi, mais là on parle de Tel Aviv. Et donc ce festival a lieu du 31 mai au 9 juin, donc on est pile dedans. Et donc ils ont appelé les cinéastes internationaux à retirer leurs films du festival et à respecter l'appel palestinien au boycott culturel d'Israël jusqu'à ce que les droits des Palestiniens soient respectés. Et donc ils en appellent à la conscience du monde entier à demander des comptes à Israël pour ces violations du droit international. Et cet appel au boycott culturel elle existe depuis plusieurs années. Et apparemment là cette année, ça, je veux dire, il y a de plus en plus d'artistes qui sont touchés et qui adhèrent et qui n'ont pas participé au festival. Voilà.
Et on va s'écouter un bout de musique des Sonic Youth par manque de temps, mais avant d'attaquer un gros dossier sur l'écologie.
Greenwashing.
Et oui, c'est à toi. Hein, qui a voulu passer cette musique.
Ouais, non, effectivement. En plus, c'était pour faire du greenwashing en direct et j'étais pas prêt, merde. Flûte. Juste pour vous parler de cette initiative dont on a entendu parler dans le Figaro, dans LCI, dans Nouvel Obs, etc., etc. Donc, ça s'appelle le Plastic Attack. Ça consistait ce week-end à aller dans les supermarchés. Tu fais tes courses et après, tu te mets derrière les caisses et tu enlèves tout le carton et tout le plastique inutile et tu rentres chez toi. Voilà. Donc ça, ok. Et le Figaro nous a précisé que Carrefour, dans un communiqué, a annoncé un objectif de 100% d'emballage recyclable, réutilisable et compostable pour les produits distributeurs d'ici à 2025. Voilà. Donc en fait, j'ai juste eu envie de rappeler à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent qu'en fait, il faut jamais, jamais, jamais faire confiance à un grand distributeur, à une multinationale de l'alimentaire. Alors, justement, par hasard, je suis tombé sur une boîte de café de chez Carrefour, et donc je vais vous montrer ce que c'est, voilà ce que c'est que le greenwashing. Alors donc, il y a c'est une boîte en carton, qu'on entend là, voilà. Celle-là, il y a marqué dessous qu'on peut la recycler. Dans la boîte à carton, il y a un grand sachet plastique que j'ai pas emmené, dans lequel sont toutes les pastilles, et le sachet plastique, il est pas recyclable. Dans le sachet plastique, il y a des capsules en plastique. Donc déjà, le sachet plastique, il sert à rien. Et là où c'est très très fort, et là où moi je m'étrangle, donc on va le faire en direct. Ce sont des capsules de café, et donc quand vous ouvrez la capsule de café, on va essayer de le faire en direct.
Attention, ne te coupe pas.
Voilà, je l'ouvre, voilà. Qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de la capsule de café en plastique? Voit un peu de café, vous allez me dire. Eh ben non, en fait, il y a une autre capsule en plastique.
Ouais, il tente d'ouvrir avec sa clé.
Ce truc là, voilà.
Le truc est tellement solide.
Je le montre, il y a une autre
qui ressemble à un pot de petit suisse.
Voilà, donc il y a une autre, voilà. OK. Donc ça c'est du produit Carrefour.
Et à l'intérieur c'est une capsule en plastique dur.
Voilà. Donc tout ça ne se recycle pas.
Donner l'impression qu'il y a beaucoup de café en fait, pas du
tout. Il y a ça aussi. Donc tout ça pour dire que ne jamais faire confiance à un grand distributeur. Pourquoi je vous parle de cette boîte de café, c'est que c'est pas tout. Il y a un gros logo sur cette boîte de café, il y a un gros logo écrit en vert CO2 neutral. Et il nous explique, c'est qu'on l'a de chez Carrouf, que en fait la torréfaction du café en question, qui est dans 3000 couches de plastique, a été réalisée dans des projets de développement durable. Voilà. Donc ça s'appelle du greenwashing, ou plus exactement, quand on vous fait ce genre de truc à vous, ça s'appelle on se fout de ta gueule. Voilà. Donc c'était juste pour rappeler ce que c'est le greenwashing. Et il y a une autre tendance dont vous pouvez entendre parler dans le magazine Bastamag. Ça s'appelle le local washing, et c'est toujours ces grands distributeurs qui en fait disent à des producteurs locaux qui vont acheter leurs produits, puis en fait ils font une énorme pub sur le fait qu'ils font du local, et puis en fait ils achètent. Alors par exemple, il y a une dame, on lui a acheté 300 yaourts tous les 3 semaines, et après ils ont voulu la prendre en photo pour la mettre en grand dans Auchan. Voilà. Il y a Leclerc qui a vu avec un un gars qui fait des salades, il lui a pris 100 colis de salades, sauf qu'en fait, quand il vendait pas les salades, il lui a rendu et il les a pas payés. Voilà. Donc c'est ça, la grande distribution, ça s'appelle le local washing.
C'est effectivement, je sais pas si vous avez fait un tour dans une grande surface récemment, mais effectivement, on voit de plus en plus des photos de, c'est-à-dire qu'ils personnalisent. Avant, effectivement, il y avait des rayons où t'achetais tes salades, enfin, ou tout plein de trucs. Et maintenant, au rayon, en général, fruits et légumes et œufs, eh ben, il y a un espace où il y a des photos de gens, c'est-à-dire que t'achètes, t'es censé, j'imagine, acheter les œufs de cette photo.
Voilà, mais il faut vraiment savoir qu'il faut jamais faire confiance à ces compagnies. Ça sert à rien, par exemple, d'acheter du bio chez Carrefour ou dans toutes les grandes compagnies. Il y a quelque chose derrière. Juste coup de bol, ce soir sur Arte, il y a un petit truc qui s'appelle le greenwashing ou l'art de l'illusion. En fait, c'est une dame qui s'appelle Catherine Hartmann qui a écrit un livre sur les mensonges des industriels et qui parle des capsules de café, mais des notes marques. Et en fait, le café, il est super méga, en fait, c'est une espèce de conte de fées écologique avec une culture durable du café. Mais en fait, c'est dans des capsules en aluminium. Et ils disent qu'en fait, il y a 8000 tonnes d'aluminium qui pourraient correspondre à toutes les capsules qui sont consommées. Et l'aluminium, il n'y a pas plus dégoûtant à produire, quoi. Voilà. Donc, le greenwashing, il faut vraiment arrêter, quoi.
Et dans les petites réjouissances écologiques, maintenant, on va aller faire un tour du côté du nucléaire français. Et on va partir à partir de cette Barbara Pompili. Alors, qui est Barbara Pompili? C'est une députée La République En Marche qui, aujourd'hui, n'est pas contente du tout.
Oh là là, oh là là.
Oh là là. Alors, avant d'être à La République En Marche, elle a été membre d'Europe Écologie Les Verts, elle a été secrétaire d'État de François Hollande. Bref, c'est quelqu'un avec une morale de la fidélité politique un peu élastique.
Qu'elle retourne tellement sa veste qu'on se demande quand est-ce qu'elle sera à son droit, quoi.
Bientôt avec Antoine Vechter.
On connaît déjà François de Rugy, des gens comme ça. Mais alors quand même, elle, par rapport à des François de Rugy ou à des Nicolas Hulot, elle a quand même l'air d'avoir gardé des petites préoccupations. Enfin, elle est à l'origine d'un ou deux amendements pour rendre des trucs très légèrement moins dégueulasses sur différents trucs qui sont passés dans la dernière année. Mais alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que Barbara Pompili est allée se fourrer dans une commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la sûreté des installations nucléaires.
Ah.
Alors, à ce titre, depuis le mois de février, elle se balade un peu partout en France avec d'autres gens, hein, et elle visite des centrales nucléaires. Et bon, quand elle arrive dans les centrales nucléaires et qu'elle demande à avoir accès aux tests de sûreté, elle est dans une commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Là, on lui dit « Désolé, madame, c'est impossible, secret défense. » Bon, aujourd'hui, elle a pété un petit scandale en disant qu'elle trouvait qu'il y avait un problème de démocratie.
Ah mince.
Alors, on pourrait dire qu'elle est plutôt optimiste parce que pour se poser la question de savoir ce qui est démocratique ou pas démocratique, déjà, il faut être vivant, vivante. Là, avec EDF qui veut pas filer les résultats des tests, c'est plutôt ça la question, c'est les chances de survie. Ses chances de survie, nos chances de survie, c'est quand même vraiment de ça qu'il s'agit, ni plus ni moins. Alors, c'est des histoires de piscine, d'épaisseur de cuve, de machin. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est trois fois rien. Et que donc, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, qui sont a priori pas exactement Greenpeace, vous voyez, il est hors de question de filer les résultats des tests. Alors, d'autant que de toute façon, c'est ça. C'est que quand elle demande les résultats des tests, on lui dit non, mais ils sont bons. Et elle dit oui, je voudrais bien les voir. Et c'est là qu'on lui dit non. Mais alors, c'est ce qu'il y a, c'est qu'en plus, on les connaît, les tests EDF, parce qu'on vient encore la semaine dernière d'en avoir des petits exemples que je vais vous détailler maintenant. Alors, avec en gros une mauvaise et une très mauvaise nouvelle, mais alors, allez savoir si ça se trouve, on va quand même pouvoir se demander s'il ne va pas finir par y avoir une petite bonne nouvelle au bout à force de s'enfoncer dans n'importe quoi. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que l'EPR de Flamanville va certainement...
L'EPR
de Flamanville. L'EPR de Flamanville. Vous savez, le super générateur qu'on est en train de construire dans le Nord va certainement coûter encore plus cher qu'on le croyait il y a encore 15 jours. Et puis, il faut qu'on rappelle qu'il devait coûter au départ 3,5 millions d'euros. que là, pour l'instant, il y a 15 jours, on pensait encore le payer plutôt 10,5 millions.
Non, milliards. C'est des milliards. Hein.
C'est ça, oui. Donc il devait coûter 3,5. Il y a 15 jours, on pensait à 10,5. Alors aujourd'hui, on n'a plus vraiment de chiffres sous la main, mais on sait que ça sera vraisemblablement un peu plus que ça.
Après, les experts arrêtent de se prononcer maintenant sur
le... Mais par contre, là, ils ne veulent pas se prononcer trop vite sur la prochaine rallonge.
L'énergie nucléaire, c'est toujours aussi pas cher, hein, parce qu'on ne compte pas ces coûts-là.
Alors, oui, tout à fait. Donc, tout à fait.
Ironique,
non, mais ça, évidemment, je veux dire, ça, c'est aussi des trucs. Bon. On ne peut pas parler de tout quand on parle du nucléaire. Si on rentre dans les détails de toutes les saloperies, on ne s'arrête plus. Mais alors, la très mauvaise nouvelle à côté de cette mauvaise nouvelle, c'est que, du coup, cet EPR va non seulement coûter plus cher, mais qui va aussi prendre du retard. Alors là, vous allez me dire. Bon, bah, toujours, je veux dire, donc quelques mois, peut-être plus, mais c'est toujours ça de gagner sur la mise en route de cette espèce de tromblon mal ficelé qui pourra nous péter au nez n'importe quand une fois qu'il sera mis en route. C'est vrai. Mais tant qu'on ne le met pas en route, ce qui se passe aussi, c'est qu'on ne ferme pas la plus vieille centrale de France, j'ai nommé Fessenheim, qui, alors pour le coup, le gouvernement Hollande avait dit qu'il la fermerait avant la fin de son quinquennat, mais après ils ont dit non, mais très bien, on la fermera en 2018, une fois qu'ils étaient vraiment sûrs qu'il n'y aurait plus jamais de gouvernement Hollande, ils ont dit très bien, on la fermera en 2018. Macron, arrivé, a dit pas de soucis, voilà, on la ferme en 2018. Mais quand même, il avait rajouté une petite astérisque. Et puis, si on regardait la petite note en bas de page, ça disait à condition qu'on ait mis en route l'EPR de Flamanville,
qui est du coup pour le Fessenheim, qui est en ce moment étayé par tout un tas de pansements un peu.
C'est
sur ça, toute
c'est,
la structure.
C'est que Fessenheim, c'est un truc où ils passent leur temps à aller la regarder comme ça, à dire oh putain, un bout de scotch ici, c'est peut-être pas mal, non ? C'est vraiment une vieille centrale qui avait été construite pour durer 30 ans. Là, on a dépassé les 40. C'est quand même là qu'on en est, quoi. Et donc voilà, c'est pas encore l'EPR qui risque de nous péter à la gueule, mais c'est quand même plutôt Fessenheim qui risque encore de nous péter à la gueule. Alors, la bonne nouvelle, quand même, peut-être, derrière, c'est que la filière nucléaire française, l'excellence de la filière nucléaire française commence à être de moins en moins crédible et qu'elle se décrédibilise à la vitesse grand V. Au point qu'on pourrait finir par se demander si tous ces foirages de EDF vont pas finir par avoir raison du projet d'EPR ou peut-être d'autres projets d'EPR derrière, peut-être malheureusement plus efficacement que le militantisme. Parce que là, EDF, ils sont quand même balèzes là-dessus. Alors vous allez voir. Du coup, il y a une semaine, EDF a rejeté un coup d'œil à quelques soudures sur un tuyau de 360 mètres qui relie le générateur de vapeur à la turbine qui produit l'électricité. C'est un truc qui va devoir conduire de la vapeur sous haute pression. Et puis, tiens, en fait, ces cellules sont foireuses pour 150 d'entre elles. Alors vous allez me dire, 150 soudures, bon, voilà, un soudeur, on y passe une matinée. Alors vous allez voir, c'est pas tout à fait ça. Alors ces soudures avaient pourtant été déclarées conformes lors du contrôle en fin de fabrication, d'après une nana de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Donc il faut bien comprendre, il y a EDF, c'est les gens qui fabriquent les centrales nucléaires, mais derrière il y a un truc de l'État qui contrôle tout ça, qui dit ce qui est bien, pas bien, autorisé, pas autorisé, qui fait des contrôles et qui s'appelle l'autorité de sûreté nucléaire.
L'ASN.
Donc là, cette Hélène Héron, la chef de l'ASN, disait que ces soudures avaient quand même été déclarées conforme au moment du contrôle en fin de fabrication effectué par EDF, le contrôle. Oui, alors déclaré conforme, bien sûr, c'est comme la fameuse cuve. On se rappelle de l'histoire de la cuve de l'EPR de Flamanville. Ils ont fait construire une cuve, alors c'est un machin gigantesque, c'est vraiment autre chose que de construire un immeuble. Hein.
Dans
c'est
les usines du Creusot.
Un truc ultra gigantesque. Dans les usines du Creusot, on a livré cette cuve avec des certificats de conformité, dont on s'est rendu compte après que les certificats de conformité avaient été purement et simplement falsifié par les usines du Creusot, et que l'acier qui avait servi à construire cette cuve, c'était un acier dans lequel on avait mis bien trop de carbone. Du coup, il est très cassable. Cette cuve aussi, elle avait été déclarée conforme. Bon, en tout cas, ça coûterait vraiment trop cher de la faire, du coup, tant pis, on va l'utiliser quand même. C'est bien de ça qu'il s'agit. Enfin, alors là, pour les soudures, pour le coup, on ne va pas les utiliser, il va quand même falloir les reprendre. Ah oui, mais alors c'est quand même des soudures un petit peu plus sérieuses que ce que je disais tout à l'heure, de tant pis, on embauche un bonhomme, il y passe une matinée, voilà. Puisque chaque soudure va prendre quand même plutôt 6 à 8 semaines de boulot, parce que c'est quand même des gros trucs, quoi. Et des trucs importants, si on ne les fait pas, vraiment, c'est pas bien. Du coup, pour l'instant, EDF ne s'avance pas du tout pour dire les questions qu'on se posait tout à l'heure, s'il va coûter beaucoup plus de thunes, combien de temps ça va prendre. Mais alors, Libé a interrogé une source anonyme, mais en blouse blanche visiblement, qui disait que ça devrait prendre plusieurs mois, sans doute plutôt quand même un an, voire peut-être même un petit peu plus. Ça risque de tourner autour d'un an, quoi. Bon, en soi, un an de retard, a priori, d'après cette même blouse blanche, c'est sans doute plus ou moins un milliard en plus sur la facture.
Mais c'est-à-dire que cette centrale, le jour où ils vont... Enfin, on n'espère pas, mais imaginons qu'ils se mettent à vraiment appuyer sur le bouton on.
Oh, je pense qu'il y en a...
je pense que les premiers qui vont trembler, c'est les gens qui ont suivi le chantier, quand même.
Ouais, c'est ça. C'est qu'a priori, la personne qui appuiera sur le bouton on sera très loin avec une télécommande.
Ça rappelle le sketch nul où quand ils appuient sur la centrale nucléaire, ils appuient sur un bouton, Robert, t'as oublié d'éteindre la lumière, et évidemment, il y a une tour qui s'écroule.
Voilà,
ça rappelle
c'est un petit
aussi
peu...
la chanson de Boris Vian, la bombe.
Ça rappelle un petit paquet de trucs d'humour noir, mais là, malheureusement, c'est la vraie vie. Mais alors, il y en a qui regardent ça avec pas mal d'attention, et ça, c'est la première bonne nouvelle. L'Angleterre qui a commandé 2 EPR à EDF,
ils ont bien fait, ouais.
Et l'Inde qui étudie la possibilité d'en commander 6. Alors quand tous ces gens-là voient que le chantier qui devait durer 5 ans en est déjà à 12, et donc là il va encore prendre un retard indéfini, que la facture a déjà triplé, qu'elle va encore s'allonger, que peut-être c'est pas impossible que ça les refasse un petit peu réfléchir avant de faire n'importe quoi. Alors, on peut se dire que, allez, on y croit. Cette merde, ces ratages successifs, ça pourrait être la fin de cette histoire d'excellence de la filière nucléaire française, on ne sait pas. Et la nouvelle qu'on aimerait aussi finir par apprendre, ça serait l'abandon total de ce projet, quand même vraiment dingue. Alors, bien sûr, on est loin d'en être là. Personne ne l'évoque, je veux dire, à part moi, sur l'antenne de Radio Canu. Mais enfin, quand même, on en est quand même au point où l'ASN est obligé, et ça c'est une citation de Libé, de mettre la pression sur EDF pour que l'EPR de Flamanville ne soit plus synonyme de vice caché. On parle de la plus grosse centrale nucléaire française qui va exister, hein. Et là on en est là, quoi. Le 11 avril, dans un courrier, le président de l'ASN avait déjà dressé un réquisitoire très sévère contre EDF après la découverte de ces nouvelles non-conformités, dont certaines ont été détectées tardivement. Ça veut dire vraiment les gens ils font des trucs, puis on a vraiment l'impression qu'ils les remarquent comme ça, quoi. Et ce spécialiste de la sûreté nucléaire de pointer des défaillances humaines et organisationnelles, un manque de rigueur des fournisseurs, en épinglant les insuffisances du système de surveillance mis en place par EDF. Là, c'est le truc, enfin bon, vous voyez. Craignant des dysfonctionnements potentiellement préjudiciables à la sûreté, il invitait EDF à revoir de fond en comble son organisation. Cette EPR, ça va être un truc énormément plus balèze que la centrale de Fukushima. Hein. Je veux dire, s'il y avait un accident. Avant même cette affaire de soudure, l'exploitant avait déjà déclaré le 22 février un premier problème de qualité affectant une autre partie du circuit secondaire principal. Et donc voilà, on a déjà dit érodit cette histoire de cuve centrale. Alors l'ASN pour l'histoire de cuve centrale avait quand même un peu froncé les sourcils comme ça, fait des gros doigts grondeurs là, vraiment pas contente. Mais en même temps, tout ça coûte des sous, et puis la réputation internationale, les Anglais, les Indiens, blablabla, bref, la cuve utilisée quand même, mais il faudra remplacer le couvercle d'ici 2024. Alors franchement, avec tous ces soucis dont on a toujours l'impression qu'ils sont découverts comme par accident, avec tous ces moments où on sent que EDF, l'ASN se demande s'il faut vraiment plus faire état de telle ou telle merde, ou si tant pis on va plutôt prier pour que ça tienne. Avec tout ça, la question de mettre vraiment en route la centrale, alors en 2019, en 2020, n'importe quand, peut-être que cette question de la mettre en route, oui ou non, devrait finir par se poser à un moment, non ?
Ouais. Voilà, on reste dans le dégueulasse et on va partir du côté des Antilles. Voilà, ces départements donc d'outre-mer qui sont, vous le savez sûrement, empoisonnés depuis des années par ce qu'on appelle le chlordécone. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui ? C'est parce que Le Monde a sorti un dossier spécial, une enquête du Monde, comme ils disent, où ils nous sortent des chiffres et qui font vraiment peur. Alors, le chlordécone, c'est un pesticide qui a été utilisé massivement dans les bananeraies en Guadeloupe et en Martinique pendant plus de 20 ans pour lutter contre le charançon de la banane. C'est un insecte qui détruisait les cultures. Et il faut savoir que les bananes en Guadeloupe et en Martinique, c'est un très gros pôle de revenus. Quoi. Alors le chlordécone, c'est ni plus ni moins qu'un perturbateur endocrinien qui a été reconnu comme neurotoxique, reprotoxique, c'est-à-dire qu'il altère la fertilité, classé cancérigène dès 1979 par l'OMS. Voilà. 1979, et la France a fini par l'interdire en 1990, donc 11 ans après le classement cancérigène, ça a été interdit. Mais il y a encore plus fort, c'est que le chlordécone a été autorisé jusqu'en 1993 par dérogation, donc aux Antilles. C'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe en métropole, puis aux Antilles, on laisse 3 ans de bonus de cette affreuse molécule qui est donc le chlordécone. Alors, pourquoi ça pose des problèmes alors que ça fait depuis donc 1990 que c'est plus utilisé? En fait, dans les années 2000, on a découvert que ce fameux chlordécone, qui a été donc épandu par hélicoptère notamment, il passe dans la chaîne alimentaire. Il a non seulement contaminé les sols, mais aussi les rivières, une partie du littoral marin, et puis il est monté dans les espèces, dans les bétails, dans les volailles, les poissons, les crustacés, dans les légumes, etc. etc. Et dans la population. Donc, ce que nous dit Le Monde aujourd'hui, c'est que la quasi-totalité des 800 000 habitants de la Guadeloupe et de la Martinique est contaminée par le chlordécone. Il y a 95% des Guadeloupéennes et des 92% des Martiniquais qui contiennent cette molécule dans leur corps, ce qui est complètement invraisemblable. Donc, alors qu'est-ce que ça a comme effet sur l'homme ? Faut savoir qu'en 1975, les ouvriers d'une usine en Virginie qui fabriquait ce fameux pesticide, ils ont développé des sévères troubles neurologiques et testiculaires, troubles de la motricité, de l'humeur, de l'élocution, de la mémoire, etc., etc. Et donc ils ont fermé l'usine et c'est ça qui a amené à déclassifier ce truc qui a été décrié dans les années 70 et utilisé jusqu'en 1990 donc en France. Alors en fait, le chlordécone, il rentre dans votre corps et au bout de 165 jours, il peut être enlevé. Mais le truc, c'est que du côté des Antilles, vu qu'il y en a partout, le pesticide est constamment réintégré dans le corps. Et donc, on peut le soupçonner fortement d'augmenter le risque de cancer. Alors, par exemple, le risque de cancer de la prostate, qui est un des pires cancers. Il faut savoir que la Martinique est le champion de toute catégorie mondiale du nombre de cas de cancer de la prostate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de cancer de la prostate rapporté au nombre d'hommes ailleurs qu'en Martinique. C'est complètement incroyable. Donc, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été déployées ? Évidemment, elles ont été déployées pas très tôt, plutôt à partir des années 2000. Il commence évidemment, il y a eu des fermetures qui ont été faites de certains points d'eau, des zones entières qui ont été interdites à la culture. Il y a aussi des zones de pêche qui ont été étendues, des zones de pêche qui ont été interdites. Mais il y a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'il y a pas mal de produits alimentaires qui sont vendus au bord des rues, par exemple tout ce qui est de la pêche, les langoustes, les fruits et les légumes. Et ça, c'est les personnes les plus pauvres en fait qui vont en général se servir dans les rues. Et elles sont d'autant plus atteintes par le chlordécone que ces produits qui sont vendus à la sauvette, entre guillemets, pas à la sauvette, mais en tout cas au bord des rues, sont touchés par le chlordécone. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'assez terrifiant, dont on parle assez peu du côté de la métropole, comme on dit. Et malheureusement, cette pollution pourrait durer entre 300 et 500 ans, donc il faut probablement faire quelque chose. Alors malheureusement, pour les Antilles, c'est pas tout. Vous avez peut-être entendu parler, et là c'est Luma qui nous en fait part, de l'invasion par les algues sargasses des côtes des Antilles. Donc les algues sargasses, c'est des bancs d'algues qui étaient plutôt du côté des Bahamas, et en fait ils se sont déplacés, et là ils arrivent depuis 2011 comme des fleurs sur toutes les côtes paradisiaques des Antilles. Donc déjà le tourisme, il en prend plein le nez, mais surtout ce sont des algues qui, dès qu'elles sont sur les sèches, qu'elles deviennent sèches, elles dégagent du sulfure d'hydrogène qui a également de fortes qui pénalise très fortement le corps humain. Donc par exemple, je vous en parle parce que mardi dernier, le maire de Petit-Bourg en Guadeloupe a fermé 6 écoles primaires, son lycée et son collège, parce qu'en fait il y a des algues, et donc ça sent très mauvais, mais surtout c'est très mauvais pour la santé. Alors évidemment, il ne s'est pas passé grand chose depuis 2011 du côté des on va dire des autorités. Les députés et autres autorités locales disent qu'il faut, il faut du fric pour traiter ça. Je vous donne un petit exemple. À Capesterre de Marie-Galante, donc c'est une des villes de l'île de Marie-Galante, qui est une des îles de la Guadeloupe, eh bien, 8 commerces sur 10 sont fermés, et donc il y a le maire de Capesterre de Marie-Galante qui nous dit, mais moi je ne peux pas sortir 150 000, attendez voir, je ne peux pas dépenser 150 000 euros chaque année juste pour ramasser ces algues. Voilà. Donc il faut faire quelque chose pour... ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose qui pénalise la santé des Antillais, et puis en plus qui pénalise l'économie aussi. Je termine juste par une petite note sur les Antilles. Il y a plusieurs labels de musique qui, depuis quelques temps, on va dire depuis 2 ans, exhibent des vieux vinyles des années 70-80 de musique des Antilles, qui étaient depuis très longtemps considérés comme nuls, à côté de ce qu'il y avait du côté de Cuba, et d'un seul coup, heureusement, tout le monde se repenche dessus. Il y a en particulier une compilation qui s'appelle Anti-Chérie, que je vous recommande très chaleureusement, une autre qui s'appelle Digital Zandoli. Il y a un label allemand qui est très connu qui s'appelle The Strut, qui sort une compilation d'un label qui s'appelle Debs, donc c'était le label qui est à Pignon sur Rue, toujours du côté de la Guadeloupe, qui sortait des musiques antillaises. Et ça vaut vraiment le détour si en particulier vous avez envie de passer un bon moment et de bien danser. Il y a même des types de zouk qui sont assez incroyables. On pense que voilà, c'est un peu toujours cette façon de mépriser l'inconnu. Et ben l'inconnu ressort et ça fait du bien. Voilà.
Combien ne les sont pas vus partir de bon matin, ces gars aux bras musclés avec le grand coutelas, qui ne les ont pas vus tout au long des chemins.
Et une campagne contre les techniques d'immobilisation mortelle utilisées par les flics. Donc c'est, en fait, je vais juste vous relayer le communiqué du collectif qui s'appelle Vie Volée. Plus de 10 ans d'impunité. Le 17 juin 2007, Lamine Dieng est mort, étouffé par plusieurs policiers, écrasé par leur poids et immobilisé au sol par un plaquage ventral. Lamine n'est ni le premier ni le dernier à mourir des mains de la police. Plusieurs gestes et techniques professionnelles d'intervention, qui sont appelées GTPI, sont dangereuses, voire mortelles, et sont proscrites dans d'autres pays. Le plaquage ventral, notamment la clé d'étranglement et le pliage. Sauf qu'en France, ces techniques ne sont pas interdites et surtout, elles continuent d'être enseignées dans les écoles de police. Pire, les policiers, auteurs de crimes, bénéficient d'une impunité quasi systématique. Après des années de procédures judiciaires coûteuses et psychologiquement difficiles, les familles des victimes sont contraintes d'accepter l'inacceptable, réduites au silence et à un deuil impossible. Sans vérité, il n'y a pas de justice et sans justice, il n'y a pas de paix. Mais le combat des familles prend 1000 formes différentes, juridiques, politiques, spirituelles, citoyens ou révolutionnaires. Aucune stratégie ni aucun combat n'est vain. Ce qui compte, c'est ce qui permet aux proches de tenir, de rester visibles, de garder espoir. Aujourd'hui, le collectif Vie Volée, constitué autour des proches de Lamine Dieng, mène une campagne contre les techniques d'immobilisation qui ont emporté leur fils et leur frère. Cette campagne prendra plusieurs formes, mobilisation, manifestation, affichage et pétition. Donc, si vous voulez commencer par faire ça, allez signer la pétition sur le site change.org et vous pouvez retrouver le lien sur le site lundi matin, rubrique Désarmons-les.
Les coupeurs de cannes, ils sont fiers, bien bâtis, naturels, les gens passent, à l'œuvre, ils chantent tous, coupant l'arbre sucré.
Alors, peut-être ne savez-vous pas qui est David Hogg ? David Hogg, c'est un de ces lycéens de Portland qui ont survécu à cette histoire de fusillade dans leur lycée. C'était il y a 6 mois, quelque chose comme ça. Un lycéen un peu dingue, un peu, je me demande si c'était pas une sorte de suprémaciste blanc ou je sais pas quoi, est arrivé avec un flingue. Il a tiré au hasard, il a buté 17 personnes, des lycéens, des profs. Et sauf que là, ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de ça, il y a une petite bande de lycéens, ils sont une petite dizaine, qui se sont dit qu'ils allaient vraiment se bouger pour changer la loi sur les armes à feu aux États-Unis, pour que les armes à feu deviennent moins facilement accessibles. Et ils ont été balèzes, ils sont hyper bien organisés, enfin ils sont encore hyper bien organisés, ils font des marches, ils font des protestations, ils vont voir des sénateurs, ils passent à la téloche, et ils font ça vraiment de manière hyper bien, hyper intéressante. David Hogg, c'est un de ses lycéens. Eh bien, figurez-vous que, tiens, je ne sais plus quand ça se passe, mais il y a quelques jours, sa maison a été envahie, une porte défoncée, maison envahie par des forces spéciales, une équipe SWAT. C'est des sortes de GIGN un peu dingues, là, comme ça, ils arrivent masqués avec des guns partout, tac, tac. Hop, ils rentrent dans sa maison, ils défoncent tout. Et ils cherchent la personne armée qui est dans la maison d'après un coup de fil anonyme.
Ah ouais.
Bon, il se trouve que dans la maison, ils ont plutôt trouvé personne. Donc, ni personne armée, ni le lycéen, ni ses parents, ni personne. Alors, il faut dire, pourquoi ils ont trouvé personne? Parce que le lycéen, pendant ce temps, il était à... alors, attendez, où est-ce que c'est? Il était à Washington. Il était en train de recevoir un prix d'un truc de droits humains au moment de l'intervention des autres, là. Mais voilà, a priori, c'est une technique parmi un milliard d'autres qu'ont les défenseurs des armes à feu aux États-Unis pour le décourager, lui et sa bande. Donc voilà, là, enfin, en l'occurrence, il y a des chances que ça soit ça, mais il faut dire que lui, par exemple, alors si ça se trouve, les autres aussi, mais là l'article que j'ai trouvé était sur lui. Lui, par exemple, il y a des sites qui expliquent que, en fait, c'était pas un lycéen, c'est un acteur, ou c'est un agent du FBI qui avait été placé dans le lycée exprès pour. D'autres disent que des sites conspirationnistes comme ça expliquent qu'en fait c'est complètement impossible qu'il ait été dans son école au moment de la fusillade. Et puis par exemple une nana qui est interviewée sur Fox News expliquait qu'en fait qu'il avait essayé de s'inscrire à des universités mais qu'il avait été rejeté partout, donc c'était un gros nul. Donc de toute façon, ce que lui et les autres avec qui il fait ce boulot raconte n'était pas du tout à prendre en ligne de compte. Bon, lui il a quand même plutôt dit récemment que entre le lycée et la fac, il avait plutôt commencé par prendre un an pour continuer à militer sérieusement et se consacrer uniquement à ça, à militer sérieusement contre cette espèce d'accès tellement ultra facile aux États-Unis aux armes à feu. Et donc les lycéens de Parkland se lancent dans un road trip. Ils vont parcourir les États-Unis pendant 60 jours pour une marche pour nos vies. La route du changement, c'est comme ça que ça va s'appeler. Et en particulier pour alors bon, le truc moi me fait un peu moins triper, mais une de leurs revendications, c'est d'encourager les jeunes à voter. Mais surtout, comme c'est sur cette histoire d'armes à feu, il y a énormément de gens aux États-Unis pour qui c'est le seul critère de vote. C'est un truc qui est aux États-Unis plus qu'ailleurs. C'est des gens qui ont une préoccupation dans la vie et ils votent qu'en fonction de ça. Ça peut être l'avortement, ça peut être des trucs comme ça, et ça peut complètement être les armes à feu. Il y a plein de gens qui ne choisissent leur candidat qu'en fonction de la position sur les armes à feu, et donc lui a priori il veut que des gens s'inscrivent sur les listes électorales pour faire une sorte de pour contrebalancer ce truc là.
Et le 15 juin 2018 à 21h au Terreau, il y aura une Pride de nuit. Qu'est-ce que c'est qu'une Pride de nuit? En fait, c'est des trans, des PD, des gwyn qui vont et queer, qui vont prendre la rue en non-mixité pour justement parce qu'on est dans le mois des fiertés. Le 16 juin, en fait, c'est la Pride officielle. Et l'idée, bah, c'était de faire une marche un peu plus radicale de nuit, parce que bah, beaucoup des agressions homophobes et transphobes se passent la nuit dans l'espace public aussi, et que bah, c'est d'autres manières de prendre la rue moins festive et plus dans l'énergie de la manifestation. Je voulais vous lire, là, il y a un très long communiqué que vous pouvez retrouver sur Rebellion, un appel à cette marche, mais je vais vous en lire un petit bout pour situer. Nous considérions que seule une Pride de nuit autonome et en non-mixité permettra d'envoyer un message sans concession contre la marchandisation et l'instrumentalisation de nos luttes. Nous refusons de servir de vernis friendly au fascisme d'État et à la violence néolibérale. La Pride de nuit n'est pas une gay Pride avec comme porte-parole des élites nationalistes, macronistes, blanches et bourgeoises. Nos fiertés ne sont ni patronales ni nationales. Nous ne voulons ni de la Marseillaise, ni des chars capitalistes ou d'un certain capitalisme vendu, comme la CFDT, ni des flics, ni du flag, assaut de keufs LGBTI. Nous voulons une marche à notre image de non-conforme et contestataire, héritière des émeutes de Stonewall. Donc Stonewall, c'est l'épisode de soulèvement populaire et d'autodéfense politique contre les forces armées de l'État policier raciste aux États-Unis. Et nous verrons revendiquer cette Pride comme un espace de solidarité entre les luttes pour l'émancipation de toutes. Voilà, j'avais envie de lire ce petit extrait parce que ça fout la patate. Et du coup, c'est bien écrit que ça ne s'oppose pas à la Pride, la Lesbian and Gay Pride. C'est juste, ça fait d'autres marches. Là, on va dire c'est une marche de personnes plus autonomes et militantes. Et la Pride, la Lesbian and Gay Pride, s'adresse plus à tout le monde et plus au monde associatif.
Donc c'est vendredi.
Vendredi 15 juin, 21h, au Théo.
Et donc ce canular...
C'est ça, c'est vendredi de la semaine prochaine. Et par contre, demain, rassemblement pour le retrait de la loi asile et immigration. Vous savez, c'est la dégueulasse loi de Gérard Collomb. Donc rassemblement pour le retrait de cette loi. C'est demain, c'est à 18h30, c'est place des Terreaux. Donc la loi, ce projet de loi xénophobe et liberticide qui va aggraver la situation de tous les étrangers exilés, rendre l'asile à peu près impossible, renforcer les contrôles, le fichage, le tri, l'enfermement, y compris des enfants. C'est plein de trucs dégueulasses comme ça qu'il y a dans cette loi. Demain, au Théo, à 18h30.
Et il est bientôt 20h.
Et il me reste 20 secondes pour vous dire d'aller lire le dernier texte publié sur zad.nadir.org qui s'appelle « La lettre aux comités locaux et à toutes celles et ceux qui aimeraient comprendre où on en est sur la ZAD. » Voilà.
Ben, merci de nous avoir écoutés. On laisse place à Idée Noire et on vous retrouve la semaine prochaine.
Ciao.
Ciao.
Tout au bord de la trace, il regarde le soleil qui les brûle essoufflé, les coupeurs de canne.